Paula,
Vin
et compagnie.
Une émission où l'on parle de polar et de vin en bonne compagnie.
Proposée par l'association Culture Art Polar Sud-Aveyron.
Mais il connaît pas Raoul, ce mec. Il va avoir un réveil pénible.
Bonjour lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, un spécial prix Robin Cook avec le quatrième candidat qui n'est autre qu'Antonin Varenne avec son livre La piste du vieil homme, paru chez Gallimard. Mais avant, Cinépolar, c'est Didier qui sait nous en parler le mieux, le 2 mai 2025 à Cinéma de Millau à 20h30, le Mohican. On écoute Didier.
L'association Polar et Vin vous propose pour sa nouvelle séance de cinéma un western corse original, Le Mohican, un film de Frédéric Farrucci. Alors qu'il est l'un des derniers bergers du littoral corse, Joseph, eh oui, il s'appelle Joseph, est approché pour un projet immobilier. Sa terre est convoitée, mais il refuse. Frédéric Farrucci signe un très beau film sur la résistance. Après Le Nivenu, polar noctambule et parisien aux affluences hongkongaises, Frédéric, natif d'Ajaccio, retourne en Corse. Le réalisateur y a déjà tourné plusieurs films, donc un documentaire consacré à Joseph Terrazzoni, berger du littoral de l'extrême sud de la Corse et véritable source d'inspiration du film. Alex Mananti, l'acteur, prend la charge de cette figure de résistance à laquelle s'ajoute le souvenir d'Ivan Colonna, éleveur et militant indépendantiste, mort en 2022. Il est ce dernier des Mohicans, conscient de la fragilité de sa place dans le paysage corse et de la menace qui plane sur son activité de berger, bientôt annihilée par les lois et la folie de la rentabilité capitaliste et mafieuse. Ce film est rempli par ailleurs d'actions, de scènes d'action parfaites, notamment une scène de course-poursuite qui décrit d'ailleurs très bien cette colonisation du territoire quand Joseph, après avoir tué accidentellement l'un de ses assaillants, poursuivi par une horde d'hommes armés, se retrouve catapulté sur une plage bondée où campe une faune balnéaire, symbole d'un tourisme ravageur. C'est d'ailleurs dans ces scènes d'action, mêlant sobriété et efficacité, que le Mohican trouve son meilleur, revêtant une sécheresse de western qui lui sied à merveille, captant avec une certaine vibration lyrique le déclin du soleil et l'arrivée de la nuit comme les signes avant-coureurs de la tragédie en cours. Ferrucci développe d'ailleurs très clairement ses intentions dans son interview qui suit.
Joseph, mon oncle.
Bonjour.
Pierre, mon cousin.
Sourire.
Ah oui, ça commence.
Ton terrain nous intéresse.
Moi, je travaille sur ce terrain.
Regarde un peu autour de toi. Tu vois pas que tu es devenu une anomalie dans le paysage? Il y a des intérêts monstrueux en jeu, des intérêts qui te dépassent.
Tiens, c'est à cuit.
Bon, arrête maintenant. Ne fais pas comme si tu avais le choix, tu as compris?
En fait, cette histoire est née de la rencontre avec un véritable berger de littoral lors d'un documentaire que j'ai tourné en 2017. Et ce berger, au moment où je tournais ce documentaire, ne cessait de dire qu'il était devenu une anomalie dans le paysage. Il se nommait lui-même le dernier des Mohicans. Et il me disait qu'il ne pensait pas pouvoir transmettre l'exploitation à ses fils parce qu'il avait peur qu'un jour il reçoive la visite un peu trop insistante d'hommes souhaitant acheter le terrain pour y développer des activités plus lucratives et plus dans l'air du temps.
Joseph, on dit pas non à ces gens-là.
Oh, il est où Michel? Oh, tu vas où là?
Dès le départ, moi, j'avais envie de tourner des films en Corse. C'est mon territoire natal. C'est l'endroit où je me sens légitime pour évoquer des questions politiques, notamment, pour filmer un territoire, pour parler de la population qui vit, qui évolue. Alors moi, c'est quelque chose qui me travaille énormément, en fait, le fait que des individus organiquement liés à un territoire s'y sentent menacés, en soient chassés, dans une civilisation où seuls les intérêts économiques prévalent. Western, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé dès le tournage du documentaire. Et donc, quand il s'est agi de passer à la fiction, c'est le genre vers lequel tout de suite j'ai lorgné. Souvent, le western s'articule autour de deux grands piliers qui sont, premièrement, le conflit de territoire lié à un conflit de civilisation. Et le deuxième aspect qu'on retrouve très fréquemment dans le western, c'est la légende. Souvent, on est face à un héros légendaire qui est une légende dès le début de l'histoire ou qui le devient au fil de la narration.
Les réseaux sociaux l'ont surnommé le Mohican et suivent sa cavale, convaincu qu'il est poursuivi à tort.
Donc j'avais l'impression que j'avais deux axes vraiment du western, deux piliers du western sur ce territoire, et ça m'a vraiment donné envie de déployer le genre à cet endroit-là.
Et cette fille-là, avec ces putains de réseaux de merde-là, retrouve-moi ce berger, que les gens commencent pas à en faire un héros.
Alexis Mananti, on l'a reçu en essai assez rapidement. Et assez rapidement, j'ai été subjugué par sa proposition parce qu'il proposait une intensité et une justesse par rapport à ce personnage de berger qui m'a tout de suite subjugué. Et il a en lui, je trouve, une forme de mélange d'archaïsme et de modernité qui correspond tout à fait à ce que je connais des bergers d'aujourd'hui. Et donc, très très vite après l'avoir rencontré, je crois que je ne pensais plus qu'à lui.
Tu t'es juste défendu, non? C'est ça qui s'est passé? Pourquoi tu te rends pas?
Tu sais,
je connais beaucoup de types qui tiennent tête à la mafia. Regarde un peu autour de toi. J'ai posté ça.
La Corse est une île dangereuse, c'est ça que tu veux dire?
La réalité, c'est que ces gens-là, ils en font vivre du monde aussi.
Moi, ça veut dire bétonner le littoral.
J'ai remarqué tout de suite Marataquin par la qualité et la variété de ses propositions de jeu, mais plus encore à travers les discussions qu'on a eues par la suite, parce que on a assez vite parlé politique et je me suis aperçu qu'elle était très politisée. Et moi, j'avais besoin d'une jeune femme de ce type-là, une jeune femme qui porte en elle la résistance, qui soit frondeuse. J'avais vraiment envie d'une féminité forte pour incarner Vanina. Et donc, je crois que j'ai trouvé Mara autant dans nos discussions politiques que dans sa proposition de comédien.
Oui, quand il est cousu qu'à l'intérieur.
Je crois que pour me lancer dans un projet, il faut que dans ma vie de citoyen, je sois heurté par le réel. Et c'est à cet endroit-là que le cinéma peut advenir. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc je crois que je suis incapable de faire du cinéma autrement que politique pour l'heure.
Merci Didier pour cette présentation du Mohican et surtout pour l'interview de Frédéric Farrucci. Donc, le Mohican, ce western corse, le 2 mai au cinéma de Millau à 20h30. Et chose importante, la séance sera suivie d'une dégustation gratuite de vin sélectionnée par Jean-François Vincent, caviste à Millau. Et revenons à la littérature avec le quatrième roman qui est en lice pour le prix Robin Cook 2025. C'est celui d'Antonin Varenne, La piste du vieil homme. Mais qui est Antonin Varenne? J'ai envie de dire, l'errance est-elle héréditaire? En tout cas, elle est génétique. C'est ce qui vient à l'esprit quand on lit la bio d'Antonin Varenne. Il n'est resté que quelques mois à Paris après sa naissance avant d'être amené par ses parents pour vivre aux quatre coins de France et puis sur un voilier. Il ne reviendra à Paris que 20 ans plus tard pour poursuivre des études de philosophie à Nanterre. Il quitte l'université après avoir obtenu une maîtrise de philosophie où il a étudié Machiavel et l'illusion politique. Il devient alpiniste, on aurait pu dire acrobate du bâtiment et effectue des travaux périlleux, mais les façades d'immeubles restent un champ assez restreint pour satisfaire ses envies d'évasion. Alors, il part travailler en Islande, puis au Mexique et, en 2005, il s'arrime au pied des montagnes Appalaches entre États-Unis et Canada où il décide de mettre sur papier une première histoire. Revenu en France accompagné d'une femme américaine, de deux enfants bilingues et d'un chien mexicain, il s'installe dans un lieu approximatif, vous comprendrez plus tard, la Creuse, et consacre désormais son temps à l'écriture. Il a écrit une presque vingtaine de romans et reçu de nombreux prix littéraires, Fakir en 2009 récompensé par les prix Michel Lebrun et Sang d'encre. Avec Le Mur, Le Kabyle et Le Marin, il remporte en 2012 les prix Quai du Polar 20 minutes, le prix du Polar francophone et le prix Jean-Amila Mecker. 3000 chevaux vapeur est lauréat du prix littéraire de l'Archipel, Récit de l'ailleurs, Saint-Pierre et Miquelon en 2015. Battu obtient le prix de la ville de Mauves-sur-Loire ainsi que le prix Sable Noir en 2016. Féru d'essais historiques et de biographies, il parvient à donner une dimension didactique à ses romans sans jamais en alourdir l'intrigue. Il sait trouver le juste équilibre entre précision historique et imagination débridée. Il y a une double inclinaison dans l'écriture, celle de vouloir saisir le réel et une autre inverse qui tend à vouloir s'en éloigner. Antonin Varenne maîtrise ce paradoxe et nous en fait profiter. Alors, recevra-t-il le prix Robin Cook pour son dernier roman « La piste du vieil homme » paru chez Gallimard ? C'est en tout cas ce qui sera décidé dans les semaines à venir en fonction des votes des lecteurs et du jury du prix. Antonin Varenne nous fait, comme à son habitude, voyager puisqu'il nous amène avec « La piste du vieil homme » à Madagascar. Mais qui est ce vieil homme ? Ça aurait pu être Simon, le personnage principal du roman, pas tout jeune, Simon qui commence à taper dans les 70 ans. Simon est installé à Madagascar où, avec son compère de toujours, Patrick, il tente une énième tentative entrepreneuriale avec la bien nommée Mad Aventure. Leur vie est en fait d'une succession de réussites, mais surtout d'échecs. Une lettre de sa fille lui annonce que son frère, donc le fils de Simon, est à Madagascar depuis un an, mais qu'elle n'a pas eu de nouvelles de lui depuis 6 mois. Face à la surprise, vous comprenez bien que l'intrigue va évidemment se dérouler autour de cette recherche. Mais Madagascar n'est pas la Creuse, clin d'œil à l'auteur. Et les galères vont se succéder. Une petite amie délaissée, une dette auprès de dealers, un pont effondré, sœur Françoise, si c'est une galère, l'Eda à l'eau, vous apprendrez à les connaître, et des conditions de voyage plus que déplorables, averses torrentielles, pistes défoncées et bien sûr détrempées. Et quand on arrive au bout du chemin, il ne reste plus qu'à suivre la piste du vieil homme, nom donné par les habitants indigènes à cette piste qui va mener le vieil homme qu'est Simon vers on ne sait quoi. Comment sortira-t-il de cette mise en abîme du vieil homme sur la piste du vieil homme ? Michel, tu nous lis un extrait. Donc, une petite précision pour que les gens comprennent mieux le texte, c'est que tu parles des Vaza. Vaza, c'est le nom qui est donné aux Blancs qui vivent sur l'île de Madagascar. Et donc, on suit Simon à la recherche de son fils.
À une station-service, je fais le plein du réservoir de 50 litres et de 2 jerrycans de 20 litres. Mon vieux moteur Volkswagen devient un gouffre quand il s'agit de sortir du sable ou de la boue. Je cache les 2 jerrycans sous la banquette arrière et je laisse en vue un dernier petit bidon de 5 litres. J'achète 2 cartouches de cigarettes, j'en planque la plupart et laisse 3 paquets accessibles dans la boîte à gants. En tendant le bras, je peux les attraper facilement, comme la machette sous le siège passager. Je n'oublie pas quelques paquets de biscuits dont raffolent les gamins et qu'ils réclament si on ne leur donne pas d'argent ou des bouteilles plastiques vides. Mon front se plisse quand un des pompistes me demande où je vais. À partir d'ici, je suis un Vaza qui voyage seul. Une curiosité, autant qu'une opportunité. Les pompistes ont des amis, loin, le long de la Nationale 1. On saura que j'arrive. Des vendeurs de souvenirs ou des flics pour me racketter. Je réponds « Empéfi ». Une bourgade avec quelques installations touristiques à 60 km d'ici, au bord du lac Itassi. Dans le secteur, c'est la seule destination logique pour un voyageur. Et c'est sûrement dans cette direction que les guetteurs de la station-service vont annoncer mon arrivée. Je me fais arrêter dès la sortie de la ville. Gendarmerie nationale. Le nom et l'uniforme sont français. Les méthodes différentes. Une chaise à l'ombre d'un manguier. 2, si les flics travaillent en duo. Un cheval de frise en fer de béton rouillé sur la moitié de la route. Et cabossé, une pancarte de signalisation routière peinte à la main. Halte police. Avec ces trois bricoles, les flics malgaches s'assurent des revenus d'empereurs locaux. Ils font payer tous les gens qui travaillent sur les routes, artisans, taxi-brousses, chauffeurs de bus. La taxe varie à la tête du client et les Vazas payent le plus. Mais tout le monde y passe et le mot « profiteur », tout aussi français que « gendarmerie », est utilisé par tous. On sourit parce que se mettre en colère coûte généralement plus cher et vous attire des problèmes plus graves. Un gendarme de bord de route, avec sa chaise sous un arbre, n'est jamais seul. Il paye lui-même une taxe sur ce qu'il vole, à un ou plusieurs de ses supérieurs, qui versent aussi quelque chose à un officiel plus haut placé. Un malgache sans protection ni complice ne s'en prend jamais à vous. Sauf peut-être, comme partout, s'il est défoncé au rhum. La corruption est toujours verticale. Et les gendarmes débonnaires de la Nationale 1 deviennent vite fiers et violents quand on les traite de ce qu'ils sont, des plaies infectées du pays. Sur un buggy de 1968, on trouve toujours quelque chose pour entamer la discussion. Une ampoule de feu stop qui ne fonctionne pas, un rétroviseur cassé, ou bien c'est une date qui n'est plus bonne sur un papier, comme mon permis malgache, que je n'ai pas fait renouveler à temps. Dans un pays où la moitié des gens roulent sans permis. Moi, qui ai même une assurance. Mon gendarme, un modèle bien gras, au képi trop petit, posé haut en biais sur son crâne d'œuf, ne s'est pas levé de sa chaise pour rien. Les négociations sont les mêmes qu'avec les petites frappes de Tana. 10 minutes pour diviser par 3 ce qu'il me demande. Je m'en tire pour 4 euros. 20 000 arriéris. Pas grand-chose, dira-t-on. Tout de même, 2 journées de salaire moyen. Et cette enflure fait ça 8 heures par jour.
Et maintenant, laissons la place à l'inspecteur Dérif. Que va-t-il tirer dans ton invarène ?
L'interrogatoire de l'inspecteur Dérif.
À ta place, moi, je prierai pour que ça finisse vite.
Bonjour, monsieur Varenne. Vous êtes entendu ce jour sous le statut de témoin assisté. On vous soupçonne d'avoir commis un roman, La piste du vieil homme, sous la protection des éditions Gallimard. Et pour ce délit, la peine encourue est l'obtention du prix Robin Cook en juin 2025. Donc, une fois déclinée votre identité, vous pourrez répondre aux questions ou garder le silence. Tout au bene, vous avez tout compris ?
J'ai tout compris.
Alors allons-y, nom, prénom, lieu de résidence approximatif et profession.
Antonin Varenne, j'habite dans un lieu approximatif, la Creuse, et je suis écrivain.
Et quelles raisons vous ont poussé à commettre la piste du vieil homme avec la complicité de Gallimard de surcroît?
C'est un voyage à Madagascar qui a déclenché l'envie d'écrire une histoire qui se passait là-bas. Et les gens que j'ai rencontrés là-bas, ce que j'y ai vu, découvert. Et puis ensuite, j'ai pris contact avec Stéphanie Delestré, qui est la directrice de la série noire chez Gallimard, qui avait été mon éditrice chez Albin Michel il y a une dizaine d'années. Et c'est un texte que j'avais eu envie de lui soumettre, qu'elle a lu et qu'elle a eu envie de publier.
Ok, donc vous êtes en contact avec une récidiviste en plus.
C'est ça.
Alors, qui est votre personnage préféré dans ce roman noir ?
Je pourrais forcément dire que c'est Simon, le vieux Simon, au volant de son buggy qui part à la recherche de son fils, parce que c'est le personnage principal, donc c'est celui avec lequel j'ai passé le plus de temps quand j'écrivais. Mais finalement, il y a aussi pas mal de personnages secondaires dans le bouquin qui sont auxquels je me suis pas mal attaché, dont Patrick, son associé. Donc c'est deux vieux truands qui avec leur petite boîte de tourisme à Madagascar. Et puis tous ceux que les gens que Simon sur sa route croise, la vieille bonne sœur Françoise, qui elle aussi avait qui croise brièvement la route de Simon, mais qui a des choses importantes à lui dire. Donc ouais, je me suis pas mal régalé C'est souvent le cas, je trouve, de s'attacher plus qu'on ne le voyait venir à des personnages secondaires. Les personnages principaux, je les réfléchis un peu plus à l'avance. Ils sont un peu plus travaillés, un peu plus maturés. Et puis, un peu comme Simon sur ses pistes à Madagascar, finalement, c'est des gens qu'on rencontre un peu au hasard, comme des personnages secondaires auxquels on s'attache. Donc voilà, il y a toute une petite une pléiade de personnages secondaires que j'aime beaucoup dans ce livre.
D'accord, donc difficile de faire un choix, mais alors... Quel est celui que vous élimineriez sans état d'âme?
finalement, aucun. Sans vouloir racheter à tout prix les salauds. Il y a des dealers là, qui sont à la recherche de Guillaume, le fils de Simon, qui lui doit de l'argent, qui veulent un peu éventuellement lui faire la peau. Mais j'ai pris soin, par exemple, de raconter au moins un petit peu leur histoire et puis d'où ils viennent, de comment, pourquoi à Madagascar on devient un truand, dealer dans un monde de violence. C'est rarement par goût sadique de faire souffrir les autres. C'est parce qu'on est né dans des conditions socio-économiques qui font déraper un peu vers ça. En tout cas, je suis pas parti sur des personnages de méchants qui soient tout négatif. Il y a des gens, j'imagine qu'il y a des gens qui sont vraiment complètement flippants et dangereux chez qui il n'y a pas grand chose à sauver. Mais moi, du côté des méchants, j'en ai choisi dont on pouvait au moins sauver une part d'humanité. Donc dans ce bouquin, j'élimine personne.
Alors dans ce cas, donnez-moi 4 ou 5 mots-clés qui résumeraient votre roman, La piste du vieil homme.
J'allais dire nostalgie, mais je suis pas sûr que ce soit un bon mot, parce que le Simon, je vois pas que c'est un personnage nostalgique, parce qu'il est très optimiste, malgré toutes les galères par lesquelles il est passé, et c'est par lesquelles il passe tous les obstacles qu'il doit surmonter pour retrouver son fils. Donc nostalgie, ou en tout cas mémoire, ou en tout cas, nostalgie, mémoire. Combien de mots je donne? 4?
4 ou 5.
4 ou 5. Débrouillard mécanique. À force de voyager, je me suis mis à... Alors je vais pas dire qu'un mécanicien dans des pays pauvres où il n'y a pas de goudron soit aussi important que des médecins, mais bien souvent, s'il n'y avait pas des mécanos et des pilotes un peu fous qui conduisent des guimbardes complètement bouffées par la rouille et qui font que... Donc voilà, débrouillardise mécanique, solidarité. Parce que finalement, des médecins, des mécanos, des vieux véhicules, et puis des gens qui vont filer un coup de main sur la route. Donc solidarité. Donc j'ai dit quoi? Mémoire, débrouillardise, solidarité. Beauté, parce que Madagascar est une île-pays, c'est pas une île-continent, mais une île-pays absolument, absolument bouleversante de beauté et de variété, et de humainement bien sûr, mais déjà, enfin le plaisir de le plaisir géographique, topographique de cet endroit. Donc voilà, nostalgie, débrouillardise, solidarité, beauté.
Très bien, c'est noté. Et pour finir, cette question un peu plus personnelle qui me trotte dans la tête, quel vin et quel morceau de musique me conseillez-vous pour accompagner la lecture de La piste du vieil homme?
Alors, dans un album de Fleetwood Mac, qui date, je crois, de 1973, qui s'appelle Then Play On, c'est un morceau qui s'appelle Oh Well. Oh, comme l'exclamation Oh, et Well, comme bien. Oh bien, eh bien, ce serait une traduction eh bien. Et c'est un morceau rock psyché, assez planant, bon voyage, petite ambiance un peu western, avec la rencontre du blues et du rock sur des vieux, voilà, c'est un des premiers disques des Fleetwood Mac, je crois que c'est 73 ou 14, mon année de naissance.
Et un vin peut-être à déguster?
Alors moi, je suis très pouilly-fouissé. Alors alors c'est vrai que pour Madagascar, un bon vieux rhum, mais si on me demande un vin, je prendrais un blanc, pour dire qu'il fait chaud et qu'un bon, un pouilly-fouissé, bien frais. J'ai pas un château à recommander, mais voilà, c'est un vin que j'aime bien.
Ouais, bon, on hésitera entre le Pouilly et le Rhum.
Oui, c'est la colonisation, c'est ça, c'est le problème de la colonisation. Il y a du Rhum et puis il y a le vin blanc.
Absolument. Alors, M. Varenne, à cette étape de la procédure, nous vous considérons comme témoin libre, mais nous vous demandons de rester joignable jusqu'au jour de la remise du prix Robin Cook à Millau en juin 2025. Vous êtes en quelque sorte sous ORTF, obligation de rester sur le territoire français. Merci de votre collaboration.
Eh bien, je vous remercie, puis je vais rester, donc voilà, je ne bouge pas de mon lieu approximatif en Creuse.
About the shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give the answers that you want me to. Now when I talk to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to.
Il y a trop de gens qui savent pas ouvrir une bouteille de vin.
Ouais, eh ben, le pinard, c'est pas interdit, que je sache.
Nous sommes avec Florence. Florence de l'Atrium, dans le village de Solutré-Pouilly, au pied de la fameuse roche de Solutré, rendue célèbre par un certain président de la République.
Oui, bonjour. Donc l'Atrium est la boutique de l'appellation Pouilly-Fuissé, en plein centre du village, dont le concept a été créé il y a pas loin de 40 ans, dans l'idée de réunir un certain nombre de producteurs. Nous en avons 90 ici, qui proposent donc des cuvées de Pouilly-Fuissé, et également d'être une porte d'entrée, en fait, sur l'appellation, pour en savoir un petit peu plus sur son histoire, ses différents terroirs, et les différentes expressions de vin qui la composent. Et nous proposons pour cela une dégustation d'une sélection de 6 cuvées de Pouilly-Fuissé qui viennent de différents domaines et de nos différents terroirs, donc proposés à la dégustation pour justement démontrer cette différente typicité des vins de Pouilly-Fuissé.
Alors, merci Florence pour ces précisions. Alors, moi, je vous appelle parce que un auteur de polar, Antonin Varenne, qui vient d'écrire La piste du vieil homme, qui est un des romans en lice pour le prix Robin Cook que nous organisons, ben, dans les vins, il nous a conseillé, pour mieux apprécier son livre, de prendre un Pouilly-Fuissé, vin blanc, bien frais. De toute façon, vous, c'est chardonnay 100%, donc que du blanc, hein, c'est ça?
Oui, c'est exclusivement du chardonnay, comme les 4 autres appellations village du Mâconnais, d'ailleurs. Donc, cette partie-là de la Bourgogne se caractérise par une majorité de vins blancs.
Alors, j'ai vu que vous mettiez des chiffres sur votre site. Donc, 5 terroirs.
Qui donc sont composés sur nos 4 villages. Donc, le village de Chintré, le village de Fuissé ensuite, Solutré-Pouilly et Vergisson. Mais Solutré-Pouilly a une petite particularité, il est composé de 2 hameaux avec des caractéristiques de sol un petit peu différentes entre les 2 hameaux. Solutré étant majoritairement calcaire, c'est pour ça qu'on sous-distingue 2 terroirs sur ce village.
Et alors, 200 climats, ça ne doit pas être facile de connaître la météo chez vous, dites-moi.
Mais ça, c'est le petit piège de l'appellation du nom climat en Bourgogne, qui ne fait absolument pas référence à la météo, mais en fait à un nom qui désigne les lieux dits cadastraux qui composent donc plus de 200 climats de l'appellation Pouilly-Fuissé et dans d'autres appellations bourguignonnes. Donc ça vient d'un vieux mot grec, en fait, climat, qui voulait dire pente, mi-coteau.
Je me disais aussi. Et 250 producteurs, pour finir avec les chiffres, hein.
Alors, qui font de la bouteille, oui, et on en a un petit peu plus, mais qui vendent directement, donc le delta d'à peu près 70-100 autres producteurs, qui vendent directement leur récolte au négoce.
Alors, à quelle occasion on boit du Pouilly-Fuissé et avec quel mets?
Eh bien, on va dire que c'est un vin qui a une telle expressivité différente en fonction justement de ses fameux climats, de ses fameuses parcelles et des styles de vinification, qu'on peut le boire à tout moment. Ça peut être un vin d'apéritif, un petit peu dînatoire quand même, très sympathique, vif, frais, mais ça peut être aussi un vin beaucoup plus gourmet, beaucoup plus gastronomique et qui, selon son côté un peu plus rond ou alors un peu plus minéral, va se marier avec des viandes blanches en sauce, des poissons en sauce ou alors grillés, des fruits de mer, des beaux plateaux de fromage. En France, on a tendance à manger le fromage accompagné d'un vin rouge, mais très clairement avec des vins blancs et notamment le Pouilly-Fuissé, c'est un très très bel accord.
C'est vrai, je confirme. C'est un vin qu'on va trouver à quel prix
Alors ici à l'Atrium, les vins que nous avons sont de domaines différents, sont à peu près au prix domaine, voire allez, quelques 1 ou 2 euros de plus en fonction de notre petit taux de marge. Donc en moyenne sur les Pouilly-Fuissé Village, on va être sur 23-24 euros la bouteille. Et sur les premiers crus, 10 à 12 euros de plus, voire pour quelques exceptions, beaucoup plus cher. Mais on est plutôt sur 34-35 euros pour les premiers crus.
D'accord. Et les premiers crus, c'est donc le top du top, j'imagine.
Voilà, les premiers crus, en fait, en Bourgogne, c'est le niveau intermédiaire entre l'appellation village et les grands crus, et qui est en fait une reconnaissance de certains terroirs d'exception, qui a été validé donc en 2020 sur 22 climats, donc, qui représentent 194 hectares exactement sur les près de 800 de l'appellation.
Merci Florence pour toutes ces informations et toutes ces précisions. Donc on n'a plus qu'à inviter nos auditeurs et auditrices, nos lecteurs et lectrices d'aller chez leur caviste favori et essayer de trouver du Pouilly-Fuissé et à consommer évidemment avec modération.
Tout à fait, et qui n'hésite pas à venir au cours d'un périple peut-être un petit peu plus lointain à l'Atrium où nous nous ferons un plaisir de les accueillir.
C'est vrai, quand je vais en Lorraine, je passe pas loin.
Eh bien, n'hésitez pas.
Avec plaisir. Merci, Florence.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans votre médiathèque ou bibliothèque préférée pour chercher le livre d'Antonin Varenne, La piste du vieil homme, ou un des 4 autres livres candidats au prix Robin Cook. Le mois prochain, ce sera le dernier, 5e et dernier, Sébastien Vidal. Et oui, on avait fait par ordre alphabétique. Donc Sébastien Vidal pour De neige et de vent, paru chez Le Mot et le Reste. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Et oui, à la semaine prochaine, puisqu'il y aura une rediffusion ce mardi à 16h. Dans 15 jours, on retrouve une émission Polar Veil Company plutôt ordinaire, avec certainement la découverte d'un premier roman. Et dans un mois, donc Sébastien Vidal, dernier candidat au prix Robin Cook avec son livre De neige et de vent. Et surtout, n'oubliez pas, le 2 mai au cinéma de Millau, le Mohican. Merci, au revoir.